Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et son Esprit Saint qui va nous parler pour nous transformer, nous fortifier, nous édifier et nous donner la paix. Nous allons parler de la souffrance. Voilà, notre titre, c'est « Ta souffrance est un appel de Dieu. Voilà, la souffrance que tu peux endurer, c'est un appel de Dieu. Nous vivons un temps où beaucoup de personnes ne répondent pas à l'appel de Dieu. Et le monde est dans des ténèbres intenses, immenses, parce que ceux qui ont été appelés pour être la lumière du monde, ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Ils vivent leur vie chrétienne comme des consommateurs de passage en attendant d'aller au ciel. Nous voulons, à travers cette exhortation, cette prédication, secouer encore le cocotier pour dire, répondons à l'appel de Dieu. Discerne dans ta souffrance, discerne dans ton infirmité, discerne l'appel de Dieu dans cela. Et nous commençons par le texte de Jean 9, qui est un exemple de souffrance dont le Seigneur lui-même donne l'explication. Il dit, c'est pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans la vie de la personne. Donc c'est pour que la personne entre dans l'appel de Dieu. Ta souffrance est un appel de Dieu. Nous vous en supplions. Entrons dans l'appel de Dieu parce que le monde souffre de ta souffrance. Au fait, Dieu permet ta souffrance pour te dire, pour te faire sentir ce que le monde entier souffre. Tu es un miroir de la souffrance du monde entier. Ta maladie est un miroir de la souffrance du monde entier. Maintenant, tu regardes la souffrance du monde, ça ne te fait rien du tout. Et Dieu permet que tu vives une souffrance pour que tu te souviennes que le monde souffre et que Dieu a prévu la solution par son Fils Jésus, que tu te souviennes de tout cela. Et il y a des gens qui ne peuvent fléchir le genou, incliner leur cœur que face à des démonstrations de gloire élevées de Dieu. Et Dieu, parfois, il nous suscite dans des souffrances énormes pour montrer sa gloire et sauver des gens très orgueilleux et têtus. Voilà, c'est ça notre exhortation. Saisis la signification de ta souffrance. Au nom de Jésus, Jean 9.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Voilà, nous allons relire encore à partir du premier verset.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Voilà, il y a des gens qui voient un aveugle, Jésus même est témoin de cela, quelqu'un qui est aveugle né. Et les gens sont choqués, vous savez, de voir quelqu'un qui naît aveugle. Ils cherchent l'explication. Oh, quel malheur! C'est une grosse souffrance de voir quelqu'un qui est né aveugle. Mais déjà que quelqu'un soit aveugle, c'est une grosse souffrance. Mais en plus qu'il soit né aveugle, les disciples disent, mais attendez, c'est quoi le problème dans cette affaire? Est-ce que ce sont les péchés de ses parents? Est-ce que ce sont ses propres péchés? Mais oui, mais quand est-ce que lui, il a pu pécher puisque pour naître aveugle? Voilà, c'est des questions qui se posent. Jésus dit non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est pour que l'appel de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. C'est pour que les gens, à travers cet homme, voient la gloire de Dieu, comprennent qui est Dieu. C'est pourquoi il y a ce déficit de grosse souffrance qui précède une bénédiction à venir. De sorte que quand la bénédiction vient, les gens voient clairement la main de Dieu, exalte Dieu, se convertissent à Dieu. Cet homme qui est aveugle né est un exemple de la souffrance que nous pouvons endurer, qui n'est qu'une préparation d'une gloire supérieure pour que les gens voient qui est Dieu. Vous allez voir dans la suite du texte à qui Dieu voulait parler ce jour-là. Dieu voulait parler à des gens qui étaient très très orgueilleux, têtus, méchants, mais qui se disaient être de Dieu. Ces gens-là devaient voir, à travers le miracle que nous allons lire, la démonstration que Jésus est l'envoyé, était l'envoyé de Dieu, est l'envoyé de Dieu. La démonstration que Jésus est fils de Dieu, il fallait qu'il y ait cette affaire-là. Et donc ce garçon-là est né aveugle pour préparer cela. Que ces pharisiens-là, orgueilleux, méchants, puissent contempler la gloire du Fils de Dieu et s'incliner, c'est la bonté de Dieu. Donc le fait que ce garçon soit né aveugle, ça procède de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous continuons à lire, verset 6.
Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils amenèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne voit pas de Dieu, ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent faire venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert les yeux ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent.
Voilà, c'est Jean qui questionne cet aveugle qui vient de recouvrer la vue. Il dit, mais qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est Jésus. Mais qui est-il pour toi dans ce cas-là? Il dit, mais c'est un prophète. Mais ils disent, mais non. Si c'était un prophète, pourquoi il a fait ça le jour du sabbat? Et bien, le garçon dit, je ne sais pas. Ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Vous savez, ce miracle-là a transformé ce garçon et lui a donné l'occasion de témoigner de Jésus à des gens qui n'auraient pas entendu autrement le nom de Jésus, qui prenaient Jésus pour leur ennemi. Mais là, il y a l'évidence. C'est que ce Jésus-là a la capacité d'ouvrir les yeux d'un aveugle né. Et ce garçon dit, ça n'existe pas qu'un aveugle né puisse voir. Ça n'existe nulle part. Mais moi, je vois. Ils disent, mais alors c'est qui pour toi? Mais il dit, mais il doit forcément venir de Dieu. Pourquoi vous me posez la même question plusieurs fois? Donc vous vous intéressez à devenir ses disciples? Ah ben là, ils se sont fâchés sérieusement. Or, ce garçon-là était en train de leur parler de la part de Dieu. Dieu a permis la souffrance de ce garçon pour que quand le miracle viendrait, les gens les plus têtus, témoins de ce miracle, puissent mettre leur orgueil dans la poche et s'incliner devant ce miracle. C'est comme ça que Dieu agit. Ta souffrance est un appel. Donc Dieu veut se servir de toi. C'est pourquoi tu souffres. Il t'appelle. Mais il faut comprendre ça parce que beaucoup ne comprennent pas. Parce que ce garçon-là, il pouvait se contenter de voir et devant les problèmes que lui amenait son miracle, il pouvait s'enfuir et aller vivre une vie de fête, une vie de légèreté, loin des problèmes que suscitait ce miracle. Puisque ce miracle a fait que tout le monde a entendu parler de Jésus encore plus, encore davantage. Les gens plutôt ont entendu parler de Jésus davantage. Et ça a créé des problèmes chez les jaloux, chez les religieux, les maîtres de l'époque. Et ce garçon pouvait se fuir comme ses parents. Ses parents ont fui quand ils sont venus les interroger. Ils ont dit, mais non, nous, on n'a pas de réponse à donner là-dessus. Nous savons qu'il était aveugle. Maintenant, il voit. Qui l'a fait voir? C'est pas notre problème. Posez lui-même la question. Ils ont éludé, ils ont évité la question. Mais le garçon affronte. Il a saisi dans son cœur qu'il devait défendre ce Jésus-là qu'il a fait voir. Il a saisi ça, il pouvait ne pas le faire. Beaucoup de gens ont reçu les miracles, comme nous allons le voir, sans exalter Dieu, sans défendre la personne qui leur a donné le miracle. Ils ont pris le miracle dans la poche, ils sont retournés à leur vie. Et c'est ce que Dieu veut éviter pour toi. Il veut que le jour où tu guériras, le jour où tu recevras la délivrance, le jour où les choses changeront, il veut que tu glorifies son nom. Il veut que tu entres dans ton appel. Il veut que tu sois utilisé par lui pour témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Ta souffrance n'est qu'un appel. Si tu discernes cela, les choses vont changer. Et ce garçon a compris. Et il a défendu le Seigneur. Nous continuons verset 35 parce que tout ce chapitre est important. Nous allons lire jusqu'au bout. Verset 35.
Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. »
Voilà, Jésus se présente maintenant à ce garçon. Il dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Le garçon dit, mais il est où? Il dit, mais c'est celui qui te parle là. Il dit, je crois. Et il se prosterne. Vous savez, pourquoi il croit et il se prosterne? Parce qu'il réalise l'importance du miracle qu'il vient de vivre. Il sait que ça ne peut venir que du ciel. Un homme n'a pas ce pouvoir-là de donner la vue à un aveugle-né. Il sait que si Jésus, qui lui a donné le miracle, lui dit qu'il est le Fils de Dieu, il y croit. Il dit, parce que quelqu'un qui peut faire un tel miracle ne peut dire que la vérité. Il ne peut venir que du ciel. Et il se prosterne devant lui. Vous savez, ce que ce garçon fait, c'est un acte grave pour un juif de déclarer un homme fils de Dieu et de se prosterner devant un homme. C'est un acte grave, mais qui était justifié par l'importance du miracle. Vous voyez, l'importance du miracle a permis que ceux qui étaient aveugles, donc ce garçon-là, voient Dieu et que ceux qui étaient pensés être voyants deviennent aveugles. Ces pharisiens orgueilleux, face à ce miracle, ils n'ont été épris que de jalousie pour continuer à nier l'évidence que Jésus était le Fils de Dieu, leur maître à eux, mais ils ont préféré rester dans leur déni, dans leur refus. Ils sont devenus donc aveugles. Alors, ils sont devenus aveugles puisqu'un miracle évident n'a pas de répercussions sur toi. C'est évident. C'est ainsi que Dieu va nous utiliser. Il va nous utiliser pour ouvrir les yeux de certains, mais pour rendre d'autres aveugles. C'est-à-dire que certains, dans leur jalousie, ils vont nier l'évidence et ils vont devenir aveugles. Dans leur culture, parce qu'ils ont déjà toujours entendu des choses négatives sur Jésus, mais malgré l'évidence, ils vont nier. Voilà. Et par contre, d'autres, malgré tout ce qu'ils ont entendu sur Jésus, face à l'évidence de sa gloire, ils vont s'incliner pour dire, je reconnais qui il est. Là, je suis convaincu, je viens de voir la gloire. C'est cela qui s'est passé avec Esther Gulshan, qui était fille d'imam au Pakistan. Son père était un responsable important de la communauté islamique de sa ville. Et pourtant, elle est pratiquement née paralysée, tétraplégique. Du coup, les membres se sont atrophiés avec le temps. Elle avait des membres diminués, très 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 minces, atrophiés. Et pendant 3 ans, ils sont partis. Non, après, quand elle a eu ses 15 ans, son papa l'a amenée à la Mecque. l'a d'abord amené en Angleterre pour chercher une opération chez les médecins, pour voir si elle pouvait, pouvait marcher, si elle pouvait refonctionner normalement. Mais le médecin a dit, la médecine ne peut rien pour vous, seul Dieu peut faire quelque chose. Et le papa s'est dit dans sa colère, et selon sa culture, ce ne sont pas ces chrétiens impurs qui vont nous parler de Dieu, quoi. Nous allons nous-mêmes chercher Dieu à la Mecque. Ils sont partis, après le voyage de Londres, ils sont partis de Londres à la Mecque. Et ils ont fait toutes les cérémonies, aller boire l'eau de la source des Zamzam. Ils ont fait une sorte de crosse qu'on fait avec entre deux villes là-bas. Ils ont fait des sacrifices des moutons parce qu'il était très riche cet homme en grande quantité. Ils ont frappé des cailloux sur un Goliath qui est dressé là-bas. Ils ont fait toutes les cérémonies pour qu'elle soit guérie. Elle n'a pas été guérie. Et quand ils sont revenus au Pakistan, son papa est tombé malade et se sentant mourir, il a dit à sa fille, écoute, Gulshan, continue à chercher Dieu, il se révélera à toi. C'est ainsi que quand son père meurt, Gulshan sort des rites islamiques pour parler vraiment à Dieu face à face. Parce que beaucoup de gens sont dans la religion, ils répètent des rituels qu'on leur a appris depuis qu'ils sont enfants. Ils n'ont pas de vrai contact avec Dieu. C'était son cas à elle. Mais quand son père meurt, elle n'a plus rien. Elle sort de ça pour dire, Dieu, comment tu peux exister et me faire naître tel que je suis? Comment tu peux exister? Et alors que je suis handicapé total, tu fais mourir ma mère quand j'ai 1 an ou 2 ans, et maintenant tu fais mourir mon père quand j'ai 15 ans, quand j'ai besoin de lui, je vais devenir quoi? Alors Dieu, tout ce que je te demande, tue-moi aussi. Je ne peux pas vivre dans ces conditions-là. C'est là qu'elle entend la voix, la plus belle voix qui existe au monde, mais la plus forte voix aussi, qui lui dit, je ne te laisserai pas mourir. Et elle dit, mais qui es-tu? Elle dit, mais je suis Jésus. On parle de moi dans le Coran, en tant que fils de Myriam. Va lire dans ton Coran, dans telle partie tu verras qu'on parle de moi. Je suis celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Elle va dans son Coran, elle fouille après, elle voit effectivement c'est écrit ce que Jésus lui avait dit. Et à partir de ce jour-là, elle a commencé à prier Jésus le prophète qui guérit. Pendant 3 ans, le calvaire a continué. Elle a prié Jésus et n'a pas eu de guérison. La troisième année, 3 ans après, elle dit à Jésus une nuit, Jésus, ça fait 3 ans que tu m'as dit que tu es celui qui ouvrait la vue aux aveugles, qui guérissait les paralytiques. Ça fait 3 ans que je te demande de me guérir et tu ne le fais pas. Si tu ne veux pas, dis-le-moi. Quand elle finit cette phrase, sa chambre s'illumine d'une grande lumière. Ça c'est écrit dans Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus-Christ entre dans sa chambre et accompagné de 12, 6 à gauche, 6 à droite. Et il lui dit, lève-toi et marche. Et elle lui répond, je ne peux pas, puisque je suis tétraplégique, je suis handicapé depuis longtemps. Il dit, c'est moi qui t'ordonne, lève-toi et marche. Et puis Jésus la saisit, elle se lève. Ses membres gonflent. Ses membres grandissent. En un clin d'œil, ses bras deviennent normaux, ses jambes deviennent normales. Elle se lève, elle embrasse le Seigneur. Ils discutent. Jésus lui laisse la prière. Tu prieras désormais notre Père qui es aux cieux. Jésus lui laisse la prière que nous avons dans la Bible. C'est ainsi que à 4h du matin, sa tante entend des pas dans la chambre. Il dit, mais Gulshan, qui est avec toi là-bas? Il dit, ma tante, c'est moi-même. Mais comment c'est toi-même? Tu marches. Mais la tante entre la voix marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? qui t'a fait marcher? Elle dit, c'est Jésus qui est venu dans ma chambre et il m'a fait marcher. La tante saute de joie. Après que les choses se soient calmées un peu, elle vient lui dire, d'accord, Gushan, c'est Jésus qui t'a guéri. Mais quand tes frères vont venir, ne dis pas que c'est Jésus, parce que nous ne croyons pas en lui. Ça va faire des problèmes à la famille dans notre ville. Donc tu dis tout simplement que tu as été guéri par Dieu. Gushan dit à sa tante, Tati, c'est Jésus qui m'a guéri. Et il m'a dit qu'il voulait que je dise à son peuple que c'est lui qui m'a guéri. Je dois obéir à celui qui m'a guéri. Il veut que j'en parle à son peuple. Parce que Jésus lui avait dit, je t'ai fait ça pour que tu témoignes à mon peuple qui je suis. Mon peuple qui est au Pakistan et ailleurs. Et quand ses frères sont venus, beaucoup de gens du quartier sont venus le matin visiter la miraculée. Elle disait à tout le monde, Jésus est entré dans ma chambre et il m'a guéri. Jésus est entré et ses frères sont venus, lui ont dit, mais Gushan, d'accord, il t'a guéri, mais ça c'est du passé. Maintenant tu es musulmane, tu ne peux pas continuer à dire que c'est Jésus qui m'a guéri. Mais elle répétait, mais c'est lui qui m'a guéri, je ne peux pas mentir. En plus, il m'a dit que je dois dire à son peuple qui il est. Vous voyez, bien aimé, cette fille avait saisi que tout ce temps-là était la préparation de Dieu. Elle n'a pas saisi cela en lisant des livres. Elle a compris au fond de lui que Dieu l'avait fait souffrir comme ça pendant 19 ans. Parce qu'il voulait que sa gloire se manifeste dans sa vie. Et que des gens, en grande quantité, des gens qui ne pouvaient croire autrement, des gens qui ont été influencés par des faux bruits sur Jésus, que ces gens voient que Jésus est amour. Il est celui qui est le Fils de Dieu, qui seul peut guérir, libérer, ressusciter les morts. C'est ainsi qu'à partir de ce jour-là, Dieu s'est servi d'elle pour annoncer la bonne nouvelle à beaucoup, beaucoup de personnes. Et personne ne pouvait dire, les gens contredisaient par jalousie, mais tout le monde était d'accord pour reconnaître que cette fille a été 19 ans infirme. Maintenant, elle marche, ses membres ont grandi par la puissance de Jésus. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Il y a des gens qui ont pris et il y a d'autres qui ont laissé. Ils sont devenus aveugles. C'est ce que Jésus dit dans Jean 9. Il dit, je suis venu pour que certains voient. Certains ont vu à travers le miracle d'Esther Gulchan. Et d'autres ont vu, mais ils ont refusé de voir. Donc ils sont devenus aveugles. C'est comme si tu vois, mais ton cerveau tue tes yeux. Parce que vous savez, nous ne voyons pas par les yeux. Les yeux ne sont que des capteurs. Nous voyons par le cerveau. C'est le cerveau qui dresse notre image que nous voyons là. Et mais il y a des gens qui ont de bons yeux, mais qui ont tué les yeux du cerveau. Donc du coup, ils voient avec les yeux normaux, mais leur cerveau est tellement dans l'orgueil, dans le refus, dans la malhonnêteté aussi, parce que le miracle est évident, mais ils sont malhonnêtes, ils refusent. Et ils deviennent ainsi aveugles. C'est ce que Jésus dit dans Jean 9. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? L'état de ce garçon, c'est l'état du monde. Dès la naissance, nous sommes dans le péché. Dès notre naissance, le monde, lorsque notre premier papa, notre premier ancêtre pêche, il a introduit toute l'humanité dans le péché. Donc nous naissons dans le péché, nous sommes comme ce garçon-là, né aveugle, né pécheur. Et Jésus montre que s'il peut guérir cet aveugle, il peut sauver l'humanité. C'est ça le message. Dans nos souffrances, il y a un message pour l'humanité. Dieu, le jour où il va nous sortir de la souffrance, il veut que nous adressions à l'humanité le message comme quoi Dieu connaît la souffrance du monde. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour nous libérer de ça. C'est le message de cette guérison. Dieu veut dire, je sais qu'il y a des gens qui sont aveugles, qui ne comprennent pas spirituellement. Je vais envoyer mon Esprit Saint pour leur ouvrir les yeux, qu'ils comprennent. comprenons le message de Dieu à travers toutes nos souffrances. À travers chaque souffrance, il y a un message de Dieu. Il y a un appel de Dieu. Ce garçon a saisi cet appel. Il a expliqué, c'est Jésus qui m'a fait voir. Et que désormais, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Afin que tout le reste des gens qui sont dans la perdition sachent que Dieu a envoyé son fils pour sauver ce garçon, qu'il soit ce témoignage. Lui a été sauvé d'une guérison physique, mais nous, nous avons tous besoin du salut par rapport à notre aveuglement spirituel. Que nous voyons clairement que nous sommes des pécheurs et que Jésus seul peut nous sauver, comme lui seul a pu sauver ce garçon, comme lui seul a pu guérir Gulshan, c'est la même chose. Et nous lisons Actes des Apôtres chapitre 9 pour voir quelqu'un d'autre qui est dans une forme de souffrance et qui est sauvé par le Seigneur Jésus. Actes 9, 1 à 16.
Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. » Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. »
Ananias sortit, nous allons jusqu'au verset 18.
Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé devant la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
Amen, amen. Voilà un homme qui s'appelle Saul qui se croit être dans la vérité, dans le judaïsme, et qui s'est donné comme travail d'emprisonner tous les chrétiens. Donc tous ceux qui croyaient en Jésus, lui, il les considérait comme des hérétiques. Il fallait les emprisonner parce que Jésus n'est pas, selon lui, le Fils de Dieu. Tout ça n'est que mensonge. Et il a pris des pouvoirs, il a eu des autorisations pour, de la part des responsables juifs pour emprisonner les chrétiens. Et il est maltraité, il est frappé, il est emprisonné. Et c'est ainsi que il s'est exporté même. Il commençait à aller dans la ville, dans des villes étrangères pour faire le même travail. Il s'en allait maintenant à Damas, en Syrie. Et c'est là que c'est sur le chemin, sur son chemin, le Seigneur se révèle à lui. Il tombe par terre, il voit une grande lumière. Et finalement, il comprend qu'il s'était trompé, que les chrétiens sont en réalité en train de servir le véritable Dieu. Et automatiquement, il devient aveugle. Ses yeux, à cause de cette lumière, se ferment et il ne voit plus. Ses yeux étaient ouverts, mais les nerfs, en tout cas, il ne voit plus. Il devient aveugle. Et c'est ainsi que, pendant 3 jours, il va attendre l'aide du Seigneur. Et Jésus lui envoie Ananias, son serviteur, pour prier pour lui afin qu'il voie. Qui est Paul? Paul, c'est toutes ces personnes qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent à la vérité. Un jour, Dieu va leur montrer que c'est eux qui sont aveugles. C'est ce qui est arrivé à Paul. Il est devenu aveugle. Dieu lui montre. Au fait, l'aveuglement, c'est l'état du monde. Lui, il croyait voir, mais Dieu lui montre que tu es aveugle en réalité. Tu te croyais dans la vérité, mais tu étais dans l'aveuglement. Voilà que maintenant, tu peux voir par moi, Jésus. Jésus lui envoie son serviteur qui prie pour lui en son nom, pour qu'il voit. Seul Jésus peut éclairer les humains. C'est ça le message que Paul reçoit à travers sa propre expérience. Il comprend qu'en réalité, il était aveugle. Il a fallu que Dieu le fasse passer par là. Dieu te fait passer par là parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu dois passer par ces souffrances-là, sinon tu ne vas pas le comprendre bien. Sinon, tu vas te croire plus tard important. Sinon, tu vas te croire quelqu'un. Sinon, tu vas dévier. Il te connaît. C'est pourquoi il est obligé de te faire passer par ces souffrances que tu connais pour t'éviter la perdition éternelle, pour t'éviter l'égarement. Et Paul passe à travers un aveuglement temporaire de 3 jours. Ça lui permet de comprendre que l'être humain est en réalité aveugle, que seul Dieu peut le faire voir. Donc, puisque finalement c'est le serviteur de Jésus qui prie pour lui pour qu'il voie. Vous voyez, pour réaliser que Paul a compris ce que je suis en train de dire, nous allons lire son propre témoignage dans Actes des Apôtres chapitre 26. Lui-même il explique ce que nous venons de lire, lui maintenant il va l'expliquer parce que ce que nous lisons c'est pas lui qui explique, c'est le serviteur de Dieu Luc qui explique, mais lui-même Paul va expliquer ça dans Actes 26. Vous allez voir que le terme aveugle va revenir, mais pas par rapport à lui, mais par rapport à l'humanité. Lisons Actes 26, 9 à 20.
Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion de Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance.
Voilà. Il dit, je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Je n'ai pas résisté à la vision. Beaucoup de nos souffrances durent parce que nous résistons à la vision divine. Nous résistons à l'appel de Dieu. Il a dit, en conséquence, je n'ai pas résisté. Et il dit au verset 18, la mission de Dieu c'était quoi ? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc Paul a compris que ces trois jours à lui des ténèbres résumaient les ténèbres qu'il y a dans l'humanité. Les humains sont dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas son Fils. Et il a compris ça et donc on lui donne le message. On utilise son propre cas par Dieu, par le Seigneur, pour lui dire, maintenant que toi tu viens d'ouvrir, tu vas recevoir la vue, tu dois ouvrir les yeux des autres aussi. Puisque les autres sont dans les ténèbres. Donc on lui fait comprendre que ces souffrances d'aveuglement, c'est l'image du monde. Ta souffrance, c'est la même souffrance que dans le monde. Le monde souffre de ta souffrance. Mais puisque toi-même, tu n'as pas vu ça clairement, Dieu est passé par toi pour te faire comprendre que le monde souffre et ça le fait souffrir, lui, Dieu. Dieu souffre de voir le monde souffrir d'aveuglement et de toutes sortes d'esclavages de Satan, de toutes sortes d'aberrations, de meurtres, de guerres, de viols, d'injustices. Dieu en souffre. Mais il faut que quelqu'un dise aux gens du monde, il y a la solution. Jésus à la croix a crié, tout est accompli, c'est fini, il a dit. C'est lui qui nous a sauvés tous à la croix. Mais les gens ne le savent pas. Et c'est pourquoi Dieu va passer à travers les souffrances parfois pour nous réveiller, pour nous montrer la souffrance du monde, pour nous dire, mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu pries pour l'humanité? Tu pries pour ta famille? Tu pries pour tes voisins? Et il veut que nous répondions à son appel. Et Paul n'a pas résisté. Il a répondu à l'appel de Dieu. Et c'est le même Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 4. Donc à travers son expérience, il a compris comment ça se passe dans le monde spirituel. Dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4, nous allons lire. Il le dit, si les gens se perdent, c'est parce qu'ils sont aveuglés au fait. Paul a compris que lui-même était aveuglé, il ne le voyait pas. Tant qu'il n'avait pas subi ces trois jours d'aveuglement, il croyait dans la vérité. Mais pendant les trois jours physiques d'aveuglement, il a compris qu'en réalité, il était dans les ténèbres et que Dieu seul pouvait le faire voir. Donc nous lisons 2 Corinthiens 4, 3 à 4.
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Amen. Donc Paul dit, en réalité, les gens sont voilés. Et il nous faut une puissance qui vienne du ciel pour déchirer le voile. Et Paul a compris que ce ne sont pas l'éloquence, ni parler correctement la langue qui va sauver les gens, même si ce n'est pas mauvais de parler correctement, mais il a compris que ce ne sont pas des raisonnements complexes, ce ne sont pas des débats qui vont produire le salut, mais il faut une puissance céleste qui déchire le voile posé par Satan qui a aveuglé les gens de sorte qu'ils ne remarquent pas l'évidence. Hein, parce que Jésus soit le Fils de Dieu, c'est tellement évident. Ça se voit depuis sa naissance où une étoile bouge. Ça se voit quand il naît sans l'apport d'un homme masculin, par miracle dans le ventre de Marie, ça se voit lorsque, à l'âge de 12 ans, il explique toutes les écritures à des gens qui étaient docteurs des vieux. Ça se voit quand il vit toute une vie sans péché. Forcément, il vient du ciel. Ça se voit lorsque il fait des miracles que seul le Créateur peut faire. Ressusciter les morts, marcher sur les eaux, produire des poissons. Mais ça se voit qu'il est le Fils de Dieu. C'est tellement évident. Qui peut vivre 24 heures sur 24 sans péché? Est-ce que vous vous rendez compte de cet exploit-là? 24 heures sur 24, tu vis sans péché. Mais ça se voit le jour où il ressuscite d'entre les morts. Le troisième jour, il sort du tombeau. Sans que le tombeau soit ouvert, il traverse les murs. Ça se voit lorsqu'il meurt à la croix pour nos péchés. Qui peut se sacrifier ainsi pour les autres? C'est évident, mais les gens sont aveuglés. Mais Dieu veut que, à travers nos souffrances, nous puissions être utilisés par la puissance de Dieu. Que nous puissions nous réveiller, saisir que le monde souffre et que nous répondions à l'appel de Dieu. C'est nos souffrances qui vont nous réveiller pour nous dire, hein, la douleur te réveille, tu dis, mais je souffre. Mais quand tu dis je souffre, Dieu aussi va te dire, moi aussi je souffre. Ah bon? Mais tu souffres de quoi? Je souffre de voir le monde souffrir. Ah bon? De quoi? Mais du péché, de l'esclavage de Satan. Et avec les conséquences, les maladies, les infirmités, tout, moi Dieu je souffre. Maintenant toi qui es mon ami, comprends ma souffrance par ta souffrance. Élève-toi, mets-toi au travail pour le salut de l'humanité. C'est ce que Dieu veut nous dire. Ton infirmité, c'est un appel de Dieu. Plus tard c'est toi qui prieras pour que les gens soient guéris. Mais il faut que tu prennes conscience que Jésus-Christ a guéri l'infirmité à la croix. Mais il fallait que toi, tu aies une infirmité pour saisir ça. Parce que tu, au moins pour ton intérêt, tu vas te réveiller et c'est là que Dieu va connecter son intérêt au tien. Pour dire, mais voilà. Bien aimé, il y a tant d'exemples qui nous montrent cela. Qu'en réalité, les souffrances sont l'appel de Dieu. Lisons par exemple dans... Jonas 2, 1 à 7. Jonas 2, 1 à 7. Dieu envoie Jonas pour aller prêcher sa parole dans une ville, la ville d'étrangers, de non-juifs, Ninive. Jonas boude. Il estime que les non-juifs n'ont pas à être sauvés. Il estime que, selon lui, Dieu n'aime pas les non-juifs. Et il s'est trompé, bien sûr. Et c'est là que Dieu va le faire vivre le sort de quelqu'un qui n'est pas dans Dieu, qui meurt sans Dieu. Ces gens-là descendent où? Dans le séjour des morts, là où il y a les ténèbres, la souffrance. Quelqu'un qui meurt sans Dieu va connaître une souffrance indicible. Il va connaître des ténèbres qu'on ne peut pas expliquer. Et Jonas, quand il refuse la mission divine, Dieu permet qu'on le jette à la mer et il est avalé par un monstre marin. Et dans le ventre du monstre, il comprend c'est quoi l'enfer. Et du coup, quand il ressort de là, là maintenant il va obéir à la mission de Dieu, prévenir les gens qu'ils ont à se repentir et à venir à Dieu. Lisons la compréhension de Jonas 1 à 7. Ensuite, nous lirons dans 1 Samuel chapitre 1er.
L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. »
Voilà, il dit du séjour des morts, donc de l'enfer. Donc il considère qu'il était dans le séjour des morts. On continue.
Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont recouvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours.
Voilà, c'est ça l'enfer.
Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu.
Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Jonas a été sauvé. Il est dans le ventre du poisson, il voit l'enfer. Et quand il est sauvé de ça, c'est là qu'il accepte d'aller maintenant dire aux autres, attention, venez à Dieu pour ne pas vivre l'enfer. C'est très grave. Voyez, bien-aimés, Dieu nous connaît. Il sait que certaines choses, si nous ne les vivons pas, nous n'allons pas répondre à son appel. Il y a des choses qui vont nous faire vivre dans notre chair pour que nous nous connections à ses intérêts à lui, à son appel à lui. Lisons encore une histoire, ce n'était pas prévu dans 1 Samuel 1, l'histoire de Anne, la mère de Samuel, qui avait une rivale, qui avait 10 enfants, elle n'avait pas d'enfants, elle était stérile. Mais sa stérilité en réalité, c'était quoi? C'était la stérilité du monde, de l'époque d'Israël. À l'époque, il y avait l'apostasie en Israël, il n'y avait plus de vrais serviteurs. Donc Dieu a rendu Anne stérile pour dire, Anne était comme Israël, vous êtes stérile spirituellement, Anne représentait Israël. Et vous allez voir comment Anne va comprendre ça. Nous lisons 1 Samuel au premier chapitre.
Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle, qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile.
Vous avez entendu? Qui a rendu stérile Anne? C'est Dieu, c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. En réalité, elle était le symbole de son pays. Le pays était devenu stérile en relation avec Dieu. Et Dieu rend Anne stérile. Dieu, par tes souffrances, te montre les conséquences du péché de l'humanité. Tu subis cela. Tu subis afin que tu prennes conscience et que tu sois utilisé par Dieu pour le salut de l'humanité. Répondons à l'appel, bien-aimé. Il y a trop de souffrances dans le monde. Il y a trop de faux pasteurs, trop de faux serviteurs de Dieu. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Certains même ont soif de Dieu, mais quand ils vont à gauche, c'est n'importe quoi. À droite, c'est n'importe quoi. Le peu de lumière, il y a trop peu de vraie lumière. Et nous sommes là en train de vivre comme tout le monde, gérer son avenir matériel, penser à son avenir matériel, mais nous négligeons l'œuvre de Dieu, nous négligeons d'être la lumière du monde. Lisons la suite.
Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point.
Voilà, des années de souffrance où sa rivale se moque d'elle. Tu es stérile, moi j'en ai 10. Tu es stérile, moi j'en ai 10. Des années de souffrance. Où toi aussi, tu as des mois, des années de souffrance où Satan se moque de toi. Ha ha, tu es stérile. Ha ha, tu n'es pas marié. Ha ha. Tu as échoué en classe. Donc, il se moque de toi. Tu es moins intelligent que les autres. Tu n'as pas une bonne mémoire. Des années. Mais Dieu veut te parler à travers tout cela. Nous continuons.
Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. »
C'est là que la connexion se fait entre le problème d'Anne et le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que le pays était devenu stérile. Il n'y avait plus de vrais serviteurs. Le chef des serviteurs qui était là était corrompu. Ses enfants étaient corrompus. Dieu ne savait pas qui mettre à sa place. Il lui fallait que quelqu'un veuille bien lui donner un enfant. Dieu cherchait un serviteur. Mais le pays était stérile. Et il a frappé Anne de cette stérilité-là du pays, afin qu'un jour, Anne puisse fusionner avec Dieu pour produire le grand Samuel, l'homme de Dieu. Vous savez, il y a des gens qu'on a appelés hommes de Dieu. Samuel en fait partie. Et Anne a dit à Dieu ce jour-là, elle s'est oubliée. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te l'offrir afin qu'il te serve à 100%. C'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent un enfant pour eux-mêmes, afin qu'ils soient femmes, afin qu'ils soient que leur mariage ait un enfant. Mais à quel jour nous comprendrons, à quel moment nous comprendrons que Dieu cherche des serviteurs? Notre priorité, c'est les plus belles études. Je ne suis pas contre ça, mais la priorité doit être le service de Dieu. Et chacun cherche son intérêt. Il cherche à sortir de la souffrance, de la difficulté pour sa satisfaction personnelle. Anne a compris qu'elle ne devait plus chercher à enfanter pour rivaliser avec la première femme de son mari. Maintenant, elle voulait enfanter pour que Dieu ait un serviteur. Et tout a changé. C'est là que le sacrificateur a prié pour lui. Et pour elle, elle a eu un enfant. L'année qui a suivi, Dieu lui a accordé l'enfant parce qu'il y a eu connexion entre le désir de Dieu et la volonté d'avoir un enfant. Il faut qu'il y ait une connexion entre ta guérison que tu cherches et l'appel de Dieu dans ta vie. Il faut que tu saisisses que Dieu t'appelle. Il faut que tu dises, Seigneur, hein, je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui avait dit, pendant qu'il se noyait, il avait dit, « Oh Dieu, si tu me sauves de la noyade, je te servirai. » Dès qu'il a été sauvé de la noyade, il a oublié, il a vécu sa vie. Et c'est là qu'il attrape une maladie incurable. Il est passé par toutes sortes d'hôpitaux, de médecins. Il n'y a pas eu de solution. Jusqu'à ce qu'il vienne à une réunion des enfants de Dieu. Et le pasteur priait pour les gens. Pour les malades. Et quand il s'est avancé, le pasteur lui a dit, mais toi, tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas exaucée. Voilà, c'est ta situation. Et Dieu a cela. Lui, il a dit, mais moi, je suis un inconverti. Je connais pas Dieu. Comment je peux lui faire une promesse? Au fait, il a oublié que dans la détresse de la noyade, il avait parlé ainsi. Comme les gens, quand nous avons des turbulences dans l'avion, ils crient, oh mon Dieu. Pourtant, c'est des athées, parfois. Donc, beaucoup de gens crient, oh mon Dieu. Tout en disant, il ne croit pas en Dieu. Et lui, dans ce cadre-là, il avait dit, mais si tu me sauves, je te servirai. Et il avait oublié complètement. Et il a dit au pasteur que ce n'était pas vrai ce qu'il disait. Mais quand il est retourné chez lui, le souvenir est remonté. Il a dit, c'est vrai. Et il est reparti voir le pasteur pour se repentir. Il a prié pour lui. Il a été guéri, bien aimé. Il faut qu'il y ait une connexion entre tes souffrances et l'appel de Dieu. Faut prendre. Dieu s'intéresse à nous. Nos souffrances, c'est la preuve que Dieu s'intéresse à nous. Il nous appelle. Anne a compris ça. Au début, elle voulait un enfant pour prouver qu'elle est une femme et peut en avoir. Mais elle a compris qu'en réalité, c'était le plan de Dieu pour produire un enfant merveilleux qui allait être consacré à Dieu. C'est ce qu'elle a, elle a décidé. Vous savez, une maman qui va voir son premier enfant, qui va s'en débarrasser, qui va s'en séparer à l'âge de 2 ans pour le laisser au temple, c'est grave. Mais elle avait fait cet engagement, pris cet engagement-là. Mais cet engagement-là était nécessaire dans le monde spirituel pour produire un serviteur de qualité. Nos souffrances sont nécessaires pour produire des serviteurs de qualité. Des gens qui ne vont pas oublier Dieu quand ils seront guéris, quand ils seront soulagés de leurs problèmes. Ça va produire des gens de qualité, car beaucoup ne suivent pas ce chemin-là. Saisissons l'appel de Dieu. Nous clôturons avec Luc 17, 12 à 19. Luc 17, 12 à 19.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde...
Luc 17.
Ah oui, pardon.
Luc 17, 12 à 19. Histoire des lépreux.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. »
Amen, amen. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Toi, tu as compris pourquoi tu avais été guéri. Tu as été guéri pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Beaucoup ont été guéris, ont trouvé des solutions à des choses, à des situations inextricables, parfois dans le mariage. Mais après, ils ont célébré leur mariage, ils ont célébré leur guérison, leur corps, plutôt que de célébrer Dieu lui-même. Oh, le but de tout ça, c'était pour rendre gloire à Dieu. Il y a 10 lépreux. Les 10 lépreux sont guéris, mais il y a un seul qui revient pour rendre gloire à Dieu. Lui, il a compris que c'était fait pour ça. Il a été lépreux et pour que le jour de la guérison, il serve à montrer l'évidence de Dieu aux humains et rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est le moment de répondre à l'appel de Dieu. C'est le moment de saisir pourquoi je souffre. Tu souffres afin que les œuvres du Seigneur se manifestent dans ta vie. Tu as eu une infirmité dès la naissance ou même plus tard, parce que Dieu veut se révéler à toi comme celui qui est au-dessus de cette infirmité-là. Guérison ou pas, il veut que tu entres dans cette révélation que Dieu est au-dessus de ton infirmité. Il veut que tu cherches sa face, qu'il y ait une fusion, comme la maman de Samuel. Il y a eu une fusion entre son désir d'avoir l'enfant et le désir de donner un serviteur à Dieu. Il veut cette fusion-là. Quand tu penses à ta guérison, tu dois penser en même temps à l'onction de guérison totale pour les humains, pas seulement ta guérison. Tu dois penser à ce que Dieu guérisse l'humanité, sauve l'humanité. Tu penses à ça en même temps, qu'il y ait connexion entre la recherche de ta guérison et le salut de l'humanité, la guérison de l'humanité. Dieu veut que tu comprennes ces choses, qu'il est Dieu, Jésus son Fils, à la croix, a tout accompli. C'est fini, il n'y a plus à pleurer, mais c'est toi que Dieu cherche.